Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Pierre Joliot. Pierre, tu es biologiste, tu as une longue expérience de la science qui a commencé il y a quelques années. Quel âge as-tu ?
J'ai 92 ans et j'ai commencé il y a 71 ans.
Alors aujourd'hui, on va parler de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Il faut quand même qu'on signale que tu es le fils de ton père et de ta mère. Est-ce que tu pourrais me dire qui sont tes parents ?
Eh bien, mon père est Frédéric Joliot, dit maintenant Frédéric Joliot-Curie. Ma mère, Irène Curie, dite Irène Joliot-Curie. Ce sont deux scientifiques. Ma mère est la fille de Marie Curie.
Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est de discuter de ton expérience de la guerre d'Algérie, ton expérience personnelle, ton expérience à travers la science, comment ça s'est passé, comment tu as été mobilisé, comment tu as ressenti ça. Par exemple, j'imagine que ça a interrompu tes travaux scientifiques. Comment ça marche quand tu es un jeune homme mais que tout à coup on doit arrêter? Voilà, je t'écoute.
Après quelques péripéties, j'ai commencé une thèse. Et j'ai pu tellement me passionner pour mon travail expérimental que j'ai fait, je pense, un bon travail expérimental sans me préoccuper du tout de toute rédaction. Donc, je suis arrivé au bout de 6 ans de laboratoire, avec 2 notes au compte-rendu et une petite publication, un énorme masse de résultats et pas de thèse. Et en 1958, je savais que l'année d'après, j'allais être mobilisé pour un peu plus de 2 ans et demi comme militaire.
Est-ce qu'à l'époque, tu étais politisé comme ton père ?
J'étais très politisé, à la fois en opposition avec mon père, avec qui je vivais. Mon père était un communiste important à l'époque. Donc c'était un sujet de discussion violente, permanente avec mon père. À l'époque, c'était très difficile de se situer à gauche, car je me rendais compte que les gens les plus solides, la plupart du temps, étaient les communistes, et que d'autre part, l'attitude, enfin, elle était inacceptable. Donc il y avait une espèce de contradiction. Pour moi, je ne trouvais pas à gauche des gens en qui je croyais, et je pense que j'analysais parfaitement ce qu'était réellement le Parti communiste.
Donc la guerre éclate en Algérie, enfin les événements, comme on disait à l'époque, les événements commencent avant que tu ne sois mobilisé.
Oh, largement avant. Et j'allais dire heureusement, parce que je pense que la période vraiment difficile, qu'on soit scientifique ou pas scientifique, ça a été la période jusqu'aux années 58. C'est juste avant que je sois mobilisé. Quand j'ai été mobilisé en 59, on savait déjà qu'on allait vers la fin. Et finalement, j'ai eu un degré de liberté, surtout comme officier, que les mobilisés qui m'ont précédé n'ont pas pu.
De questions m'intéressent. L'une d'entre elles, c'est quand on est scientifique hyperactif comme tu devais l'être, quand tu reçois ta lettre de mobilisation, du jour au lendemain, en clair, surtout pour un scientifique expérimental, quoi, tu dois arrêter toute recherche. Comment est-ce qu'on vit ce moment ?
Bien avant de recevoir ma lettre de mobilisation, j'ai commencé à m'inquiéter. Je n'avais pas de thèse. Je partais, j'avais cette perspective de 2 ans et demi après d'avoir à reprendre mon travail, ce qui n'était pas particulièrement agréable. À ce moment-là, premier événement, mon patron René Wurmser recevait de l'argent de la Fondation Rockefeller. Et 6 mois avant mon départ, un représentant de la Fondation Rockefeller m'a proposé de partir en Amérique. et m'a proposé une bourse, alors que je n'avais pas de thèse. Il pensait que j'étais peut-être utile à quelque chose. J'ai la possibilité de partir et de ne pas faire la guerre, et j'ai décidé de ne pas partir. Ce choix, il était très fortement fondé sur l'éducation que j'avais reçue, je dirais tout particulièrement de mon père. Je ne supportais pas de me comporter d'une manière qui était différente de celle qui était offerte à la plupart des gens qui m'entouraient. Je voulais assumer ce que assumaient tous les Français, avec ce que ça représentait et ce que ça représente comme compromission. Parce qu'aller faire une sale guerre, c'est aller faire une sale guerre, et je le savais parfaitement. Comme j'étais antimilitariste, je n'avais pas fait de préparation militaire, donc j'ai fait mes classes avec un échantillonnage aléatoire de la population française. Et là, je le dis très franchement, ça a été la période réellement la plus intéressante et que je regrette le moins de toute ma période militaire. Ça m'a permis de me faire beaucoup d'amis et j'ai finalement un souvenir sur le plan humain extrêmement enrichissant qui m'amène, en vieux réactionnaire que je suis, de m'interroger sur ce qu'a représenté la courte période, justement, où il y avait une possibilité de mélanger tous les milieux sociaux, et ça a été une expérience passionnante. Je finis mes classes brillamment. Et pour les emmerder, je m'excuse du terme, j'ai décidé de demander à être officier. Quand la police est venue faire une enquête, ils ont dit « De toute façon, c'est pas la peine qu'on fasse d'enquête, on a reçu l'ordre de l'Élysée que M. Joliot serait officier. » Et je me suis trouvé brusquement dans la situation que j'avais demandé à être officier, et que je pouvais faire une école d'élèves officiers, ce qui me permettait de rester 6 mois de plus en France en plus. Bien que je n'étais pas communiste, comme je représentais un nom, je me suis dit, je vais quand même demander l'opinion d'un responsable communiste devant cette situation, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois accepter ou pas. J'ai été voir Laurent Casanova, qui était ma tête de turc dans les discussions avec mon père. J'ai posé mon problème à Laurent Casanova, qui m'a dit, ce qui était tout à fait caractéristique de la position des communistes, il faut que tu y ailles, si tu veux être officier, sois officier. Il m'a dit, il y aura une révolte des militaires, et à ce moment-là, on aura besoin de tout le monde, et tout particulièrement des officiers. Deuxième phase, je suis élève officier, je commence à faire de la propagande, et je me dis, ça va mal se terminer, et j'envoie ma lettre de démission. Je suis convoqué par le colonel, qui me dit texto, j'utilise ces termes, vous m'emmerdez, on m'a dit que vous sortirez officier de cette maison, vous sortirez officier, et foutez-moi la paix. À tort ou à raison, je suis reparti en continuant l'école. Je suis sorti brillamment, ce qui n'était pas mon habitude de l'école officier, parce que je me suis passionné pour l'artillerie, c'est passionnant. Comme j'étais dans les premiers, j'ai pu choisir une des rares cas où je pouvais encore rester 6 mois de plus en France, comme officier en France, et j'ai choisi une unité d'armes spéciales. Et là, deuxième coïncidence à peine croyable, je tombe sur un colonel qui m'envoie une lettre tellement sympathique avant mon arrivée que j'étais sûr qu'il se moquait de moi parce que je ne voyais pas un militaire écrire comme ça. Quand je suis arrivé à Bourges sous-lieutenant, le lieutenant-colonel Nardi m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit « je suis chercheur, je termine une thèse de biologie, je ne l'ai pas terminée ». Le lieutenant-colonel m'a dit « Joliot, il faut absolument que vous terminiez votre thèse ». Je vais vous décharger au maximum de toute mission. Vous restez chez vous et vous rédigez votre thèse. Disons que j'ai une activité militaire, mais j'avais un temps considérable. Ce colonel organisait chaque semaine une sortie de biologie ou de géologie réservée à l'ensemble, qu'il soit troufion, sous-officier ou officier. Tomber sur un colonel de ce type, quelle était la probabilité? Je pense qu'elle était faible. Toujours est-il que j'ai passé ma thèse, je pense, une semaine avant de partir en Algérie.
58, c'est ça ?
59.
Oh. 59. fait. Donc c'est vraiment, si j'ose dire, le tout début de la biologie, non ? C'est l'explosion de l'ADN.
Et ça a été la même chose dans mon domaine. Je suis parti dans un monde où dans mon domaine on ne connaissait rien. Et quand je suis revenu, tous les concepts majeurs avaient été mis en place. Et moi, mon travail, j'avais la chance extraordinaire que personne ne l'avait jamais lu. J'ai eu un taux de... C'est, à mon avis, le meilleur travail que j'ai fait de ma vie, le plus original, et vraiment, taux de citation zéro, je dis bien zéro. Je suis parti tout nu, je suis revenu tout nu, mais personne n'avait touché à mon travail. J'ai pu le reprendre après la guerre, en l'ajustant aux connaissances nouvelles. Donc c'est déjà une situation un peu particulière. J'étais affecté à une unité anti-aérienne, avec la grande logique des militaires et des spécialisés dans la recherche des Velegas dans les grottes. Et très curieusement, je n'ai pas été affecté à cette unité. Je me suis retrouvé dans le sud algérois, dans un semi-désert, dans un site qui ressemblait à un site de cinéma. On est un fort en terre battue, c'était tout à fait extraordinaire. Et là, j'ai fait la guerre de montagne pendant 3 ou 4 ou 5 mois. Les débuts ont été un peu difficiles parce que la section dont on m'a donné le commandement, le sous-lieutenant qui commandait cette section avait été radié et mis en tôle parce que la section que je commandais avait fait tellement d'exactions sous les ordres de ce sous-lieutenant que même les militaires de l'époque avaient considéré que c'était trop. Et je me suis retrouvé donc à la tête de la section et le capitaine qui commandait cette unité m'a dit « Méfiez-vous ». Et j'ai pu le mesurer. La première fois que je suis sorti, que je suis passé dans un village, il n'y avait plus d'hommes. Tous les gosses et les femmes hurlaient de peur. Je suis passé à travers. Le lendemain, je suis passé dans le même village. Personne ne levait le nez quand j'arrivais. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais faire un grand discours aux hommes, aux 30 hommes, la trentaine d'hommes que je commandais ? Ou est-ce qu'à la première réaction, quelle qu'elle soit, même en parole, je réagis violemment. Je n'ai jamais rien expliqué, aucun comportement autre que d'essayer de défendre sa peau. Donc, ça a défini mon attitude. Je me suis rendu compte que n'importe qui était capable de faire n'importe quoi et que la notion de chef, d'être sous-lieutenant en France, tout le monde se moque de vous, sous-lieutenant en Algérie, on est la seule référence, on est l'absolue référence, et je ne sais pas, je n'ai rien dit, mais les hommes que je commandais ont compris que je n'étais pas comme celui qui était avant, donc il ne fallait pas faire la même chose.
Est-ce qu'on peut faire une analogie avec la direction de laboratoire ?
Alors, c'est tout à fait passionnant parce que je me suis rendu compte très rapidement que tout ce que je considérais comme nécessaire dans ce que je pensais et que j'ai essayé de faire quand j'étais directeur de laboratoire, qui était d'écouter et d'essayer quand même de tenir compte de ce que pensaient les autres, quand on est militaire et qu'il y a un danger majeur, il faut être le chef, il faut donner l'impression qu'on sait ce qu'on fait, alors que très souvent, quand on est pris dans une embuscade, on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, mais il faut convaincre les gens qu'on commande, qu'on sait ce qu'on fait. Et c'est totalement contradictoire à tout ce que je pensais et de ce que je pense toujours de la manière normalement que l'on doit diriger des gens. Et c'est pour moi quelque chose qui a été passionnant et je fais allusion sans prétention à la notion de courage. La première fois que je suis tombé dans une embuscade et que j'ai entendu les balles siffler, j'avais peur. Ma première préoccupation, d'abord, c'était de ne pas montrer que j'avais peur. Et deuxièmement, de donner l'impression, de donner des ordres précis et clairs, même si je ne savais pas très bien pourquoi je donnais ces ordres. Eh bien, très paradoxalement, en jouant la comédie, au bout de 10 minutes, je n'avais plus peur. C'est-à-dire que la notion de responsabilité écrasait la peur. Quelle a été mon attitude d'une manière systématique ? Ça a été essayer de ne pas faire tuer les hommes que j'avais sous mes ordres. Je n'avais aucun intérêt pour le résultat. Exemple, si je faisais des embuscades, j'étais très populaire dans ma section parce que je faisais les embuscades de nuit sur des pitons où personne ne passait et où par contre je pouvais facilement me défendre. J'avais observé quand j'étais arrivé que beaucoup de mes collègues sous-lieutenants de mon unité ou d'autres se comportaient d'une manière qui me paraissait scandaleuse. Ils étaient tous de gauche, tous antimilitaristes, et leur comportement sur le terrain, je n'ai pas vu d'exaction, mais par exemple les propos racistes. Alors j'ai commencé à protester, et la réponse qu'on m'a faite, tu verras dans 3 mois, tu feras comme nous. Toute ma préoccupation, c'est justement de ne pas faire comme eux. Ce qui a été pour moi presque un choc, c'est qu'avant de partir en Algérie, je me disais, je ne m'adapterai jamais à cette situation. Quand je me suis retrouvé dans la montagne avec 30 bons hommes, ce qu'on appelait en nomadisation, on passait 8 jours en opération, seul, où j'étais seul responsable, complètement isolé. J'avais mon chapeau de brousse, mes rangers. J'étais dans un western, dans un décor de rêve, et je m'amusais comme un fou. Tout le problème que j'ai eu, c'était justement de ne pas trop bien m'adapter à cette situation. La capacité d'adaptation qu'on a à des conditions lorsqu'on essaye de les anticiper est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et à la limite, il a fallu que je me contrôle. Honnêtement, je n'ai jamais eu une tendance à des dérives inacceptables, ça. Mais le fait que quand je me baladais dans la montagne avec mes 30 bons hommes, je ne peux pas dire autrement, je n'étais pas malheureux du tout et que ça me plaisait plutôt, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Mais c'est comme ça.
Pendant cette période algérienne, pas de science du tout.
À cette période, absolument.
Tu n'y penses même pas.
À ce moment-là, après une période de 4 mois, 5 mois dans ces conditions, je fais une opération héliportée dans des conditions invraisemblables, alors qu'on n'était pas entraîné. Enfin, je passe, je confie une partie de ma section à mon capitaine qui avait besoin d'une escorte. Le couillon revient trop vite, laisse les hommes derrière dans des camions qui se mettent à foncer comme des brutes. Accident, 4 morts, 12 blessés. Ma section est complètement décimée, un drame assez affreux qui n'avait rien à voir avec la guerre, qui était dû à un pneu rechappé qui avait explosé sur un pont. Que se passe-t-il? Ma section est dissoute. On me réaffecte à l'unité dans laquelle j'aurais dû être affecté au début, qui était près d'Alger. Je tombe sur un capitaine qui me reçoit de la manière suivante. Il me dit « Joliot, ça fait 5 mois que j'essaye d'éviter que vous veniez dans mon unité. Maintenant, vous êtes là, on va essayer de faire avec. » Ce qui était quand même...
Et pourquoi il voulait t'éviter? Parce qu'il...
À cause de mon nom.
À cause de ton nom.
Donc, c'est là où on revient toujours à cette situation complètement aberrante qui est le fait que mes origines me poursuivaient en quelque sorte. Je discute pendant 20 minutes avec ce capitaine. J'ai eu la conviction que je n'aurais jamais de difficulté avec ce bonhomme. Et je crois qu'il a eu la même conviction que moi. Et cet individu était non seulement un militaire remarquable, mais il avait quelque chose que très peu de gens, y compris des gens de grande culture, ont. Il avait une espèce d'éthique interne qui faisait que c'est la chance que j'ai eue de ma vie. On sait bien faire, non pas chasser les félagas dans les grottes, mais du maintien de l'ordre dans des conditions. Il y avait quand même une quinzaine ou une vingtaine de morts toutes les nuits ou les jours où on sortait à Alger. Je pense qu'on est la seule unité qui n'a jamais tiré un coup de feu. Donc, sa position, on prenait des risques incroyables en négociant, et on arrivait à négocier. Et quand on n'arrivait pas, c'est pour dire que je n'ai pas toujours le beau rôle, nous avions dans cette unité 4 chiens de combat dont j'étais moi personnellement responsable. Quand on était en face d'une foule et qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire, le principe est que on a des laisses de 50 mètres. Et quand on se trouvait en face d'une foule, qui lâchait les chiens? Le sous-lieutenant Joliot. Et on lâchait les chiens et on les arrêtait à 20-30 mètres de la foule. On n'a jamais mordu personne. J'ai invité ma femme à venir passer, comme j'étais au bord d'une plage, dans des locaux qui appartenaient au Collège de France. Voilà. Ce qui était une bêtise monumentale. Et 15 jours, 3 semaines après que ma femme soit repartie, il y a eu le putsch. À ce moment-là, le fameux capitaine, qui n'était pas particulièrement de gauche, il l'avait prouvé par son attitude, vient me voir. Son raisonnement, c'est de me dire, si les généraux commencent à faire n'importe quoi, moi j'estime que je ne suis plus en mesure de donner des ordres à mes hommes, dont je ne marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Inutile de dire que je lui ai dit que je pensais comme lui. Je m'interroge d'abord, qu'est-ce qu'il aurait fait sous Vichy? Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, son principe, c'était de dire, je commande des hommes, j'obéis à des ordres, si dans la chaîne de commandement, on ne respecte plus cette règle, moi, je ne me sens plus d'autorité pour commander mes hommes. Donc, il est parti à fond contre le putsch. On a même quand même mis en taule un de nos lieutenants d'active. Et j'ai fait équipe avec lui. Et à ce moment-là, nous avons reconquis la radio. C'est nous qui avons repris la radio, notre unité. Mais ce que je disais, ce qui n'est dans aucun livre d'histoire, aux ordres de Charles, avant la fin du putsch, Charles avait négocié sa reddition et personne ne le dit. Dans aucun livre d'histoire, et ça je suis prêt à le jurer parce que je l'ai vécu, je suis entré dans Alger, pris par les pauvres pieds noirs comme des putschistes, avec les femmes qui sautaient dans ma jeep pour m'embrasser. Et on savait qu'on était en train de casser leur rêve. On est arrivé devant la radio, on avançait aux ordres du PC de Charles. Et au moment où le dernier camion de para est sorti, on s'est engouffré dans la radio, on a tout fermé. Et ensuite, le monde a changé d'un seul coup. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait la guerre uniquement contre l'OAS. C'est-à-dire qu'on est devenu un commando, comme nous faisions partie des petits nombres d'unités qui étaient restées, où il n'y avait pas eu une révolte entre le contingent et les officiers de carrière, et qu'on était resté en structure, avec la structure normale, puisque moi, bien sûr, dans la mesure où le capitaine avait pris l'attitude qu'il avait prise, je l'ai soutenu à fond. Donc, on a été considéré comme une unité sûre. Et pour terminer cette histoire, qui montre quand même la mentalité de cet officier de carrière, dont j'ai fait un véritable ami et pour qui j'avais une véritable admiration. C'est très particulier de se trouver en face de quelqu'un qu'on domine totalement du point de vue culture et qui, quand on était dans des situations difficiles, que ce soit en se battant contre les Algériens que contre les Français, il faisait toujours ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un absolument remarquable. La probabilité de tomber sur un colonel qui m'a permis de terminer ma thèse et sur un capitaine qui a commencé par se battre pendant 5 mois pour que je ne sois pas dans mon unité et qui m'a permis de terminer la guerre d'Algérie, si j'en parle, et beaucoup de mes collègues n'en parlent pas, c'est parce que j'ai eu cette chance extraordinaire au moment les plus dangereux où il y avait eu le plus de morts, d'être commandé par quelqu'un qui avait une espèce d'éthique interne. Très honnêtement, ça a été beaucoup plus dur, cette fin de guerre, quand je me suis battu contre les Français, a été beaucoup plus dur que la première partie. Parce que dans la première partie, en face de toute situation, le résultat ne m'intéressait pas. Ne pas avoir de mort, et si possible, ne pas en faire. C'était la seule chose qui me préoccupait. À partir du moment où j'ai commencé à croire qu'il fallait que je fasse ce travail, C'était l'époque où il y avait tous les attentats contre les hôpitaux et tout. Eh bien, j'ai été très mauvais. Parce que mon unité est devenue raciste. Raciste, on se dit français. Si on arrêtait quelqu'un dans la rue et qu'il avait une tête de français, il fallait que j'intervienne pour qu'on ne se mette pas à le secouer. Si c'était un arabe, on lui faisait des grands sourires.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu me racontes, c'est que cette période n'est pas présentée comme une période mauvaise dans ta vie. J'ai l'impression que tu as appris beaucoup de choses.
J'ai quand même vécu des situations assez extraordinaires. Si je résume, je vais être, c'est presque difficile à dire, bien sûr, si j'avais pu l'éviter, je ne l'aurais pas fait, mais cette année, j'en ai un souvenir, je ne regrette pas d'avoir vécu cette expérience. Et c'est un peu triste à dire, c'est une conclusion qui n'est pas très brillante, mais c'est vrai.
On prend ça comme conclusion. Vous avez écouté La Lame Djahir, le drapeau de l'Algérie, une chanson de Alaoua Zerouki, né en 1915, un artiste kabyle, militant dévoué à la cause nationale algérienne, surnommé le Rossignol.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.